Vous savez qu'il est de bonne méthode, quand on lit un texte, de le remettre dans son contexte. Et le contexte, ça peut être celui de l'auteur quand il a écrit le récit. Le contexte, c'est aussi celui du lecteur qui reçoit ce récit. Et c'est ce deuxième contexte qui m'a travaillé tout au long de cette semaine quand je me suis dit qu'il fallait prêcher sur ce texte qui est proposé à la plupart des églises chrétiennes en France ce matin, la vocation de Jean-Baptiste. Ce contexte dans lequel nous vivons, qui, vous le savez, est un contexte difficile, un pays en crise, au sein d'un monde lui-même en crise, des tensions, des violences, des incompréhensions, de l'injustice, enfin voilà, j'en parle pas plus, mais chacun de nous vient avec tout cela, soit que nous le vivions, soit que nous l'ayons traversé, soit que nous soyons noyés dans les images d'actualité. Voilà, c'est ce contexte qui est le nôtre. Et c'est avec ce contexte que j'ai reçu ce texte et dont je n'ai pas pu me débarrasser, on pourrait dire. Alors c'est avec ce contexte que je partage avec vous quelques éléments qui ont résonné dans ce texte de la vocation de Jean-Baptiste. J'ai été intrigué d'abord par le tout début du texte que Alexandre vient de vous lire, les versets 1 et 2 du texte, du passage que nous avions. Je vous le relis. La deuxième année du secrétariat général aux Nations Unies d'Antonio Guterres, Emmanuel Macron étant président de la République française, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Anne Hidalgo, maire de Paris, du temps où Emmanuel Sebold était président du Conseil national de l'Église protestante unie de France, et Arnaud Latcha, président du Conseil presbytéral de Pantemont-Luxembourg, la parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie. C'est comme ça que commence le texte, hein. C'est très étonnant. Alors bien sûr, j'ai actualisé, bien sûr, il n'y a aucune transition directe entre les fonctions évoqué par Luc et les fonctions d'aujourd'hui, et encore moins entre les personnes qui occupent ces fonctions. Mais voilà, c'est intriguant parce que quand Luc partage ce qu'il va partager, il commence par le situer dans le temps en citant les fonctions, des fonctions importantes et puis les noms des personnes qui sont titulaires à l'époque de l'Évangile de ces fonctions. Ça m'a intrigué. Il commence, voilà, la 15e année du règne de Tibère César, donc Tibère, deuxième empereur, après Auguste, qui est monté sur le trône en l'an 14, 15e année, donc ça situe le récit aux alentours de l'an 28 de notre ère. En Judée, il y a un préfet qui s'appelle Ponce Pilate, dont nous connaissons bien le nom, qui est, comme tout préfet dans l'Empire romain, le représentant de l'empereur sur le territoire qui lui est accordé et qui a charge de diriger tout ce qu'il y a à diriger sur un territoire, c'est-à-dire à la fois l'administration, l'armée, le maintien de l'ordre, les tribunaux, la question juridique, la levée des impôts. Voilà, c'est lui qui incarne l'Empire en Judée. Et puis, cette province de Judée, cette province romaine, est divisée en quatre morceaux, qu'on appelle des tétrarchies, quatre territoires sur lesquels règnent des rois, mais qui ne sont pas Louis XIV, ce sont plutôt voilà, des petits roitelets qui ont un petit territoire et puis surtout qui sont sous la domination des Romains, mais qui, bon, symboliquement, sont des tétrarques. Luc nous en cite trois. Hérode Antipas, qui est le fils de Hérode le Grand. Hérode le Grand, c'est celui du temps de la naissance de Jésus. Hérode Antipas, c'est celui qui sera du temps de la condamnation de Jésus. C'est le fils de Hérode le Grand. Et son frère Philippe et un autre tétrarque, Lysignas, qui règne Hérode Antipas sur le territoire de Galilée, et puis les autres c'est en montant au nord, Liban actuel, Syrie, nord de Damas, etc. Et puis à Jérusalem il y a les chefs des prêtres, il y a le grand prêtre. Alors Luc fait une petite erreur historique à cet endroit là puisqu'il nous cite deux noms, Anne et Caïphe, alors que dans le judaïsme il n'y avait qu'un seul grand prêtre. Le grand prêtre à l'époque c'est Caïphe, et Luc cite Anne parce que Anne, qui n'était pas grand prêtre, l'avait été plusieurs années avant, pendant longtemps, et puis Anne a été un très très grand prêtre, on pourrait dire. Quatre de ses fils ont été grands prêtres à leur tour, et Caïphe est son gendre. Donc pour le dire autrement, Anne n'est plus le grand prêtre en fonction, mais il est quand même là, très très présent, et il continue à être partie prenante. Voilà, je ne détaille pas plus historiquement, mais ce qui m'intéresse en entendant ça, c'est que si Luc nous cite toutes ses fonctions et tous ses noms, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour remplir l'évangile, c'est dans une intention, c'est pour nous dire quelque chose. Les deux chapitres précédents, il a raconté ce que nous connaissons, l'annonciation à Élisabeth et à Zacharie, qui n'avaient pas d'enfants et qui étaient âgés, qu'ils auront un fils, Jean-Baptiste. Et puis l'annonciation à Marie, qui n'a pas d'enfants et qui va être enceinte et qui va accoucher de Jésus. Chapitre 1, chapitre 2, c'est la naissance de Jésus et le début de la vie de Jésus. Et puis, pof, on passe au chapitre 3, 30 ans après. Luc aurait pu simplement dire 30 ans plus tard. Non, il nous cite des personnages et des fonctions. Et je trouve ça très intéressant parce que, en le faisant, en fait, Luc nous dit que c'est dans un temps précis et dans un lieu précis que Jésus vient et va naître. C'est pas une histoire intemporelle, c'est une histoire située. La fin des années 20 de notre ère, dans le territoire de Judée. C'est donc dans un contexte politique particulier, dans un contexte religieux, économique, social particulier, dont nous savons, et tous les historiens le confirment, que c'était un moment de grande crise, de grande tension. Il y avait beaucoup d'inégalités, il y avait le poids de l'occupant romain, il y avait le poids des impôts, et vous savez qu'à l'époque, les collecteurs d'impôts non seulement pouvaient fixer l'impôt comme ils le voulaient, pour pouvoir s'enrichir, et puis surtout qu'ils le faisaient pour collaborer avec l'empereur romain. Et puis les grands prêtres étaient assez mal considérés par le peuple parce que trop proches des Romains et des grands dirigeants. Voilà, toute une période d'agitation forte, à la fois sociale, à la fois nationaliste contre les Romains, et avec une dimension religieuse qui se plaçait autour, une attente messianique, faite d'une conception très nationaliste du Messie. C'est dans ce contexte que Luc nous dit que la parole de Dieu va devenir à Jean. Et je trouve ça très très important, parce que ça nous dit bien que ce n'est pas une histoire inventée que nous raconte Luc, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas du rêve, c'est une histoire incarnée. C'est dans un temps précis que l'évangile se donne. L'évangile n'est pas hors du temps, l'évangile est dans l'histoire. Il est dans un contexte, il est pour des gens qui existent vraiment, il est dans ce que vivent ces gens-là, il est dans une société pour un temps donné. La foi chrétienne n'est pas de se sortir du monde, n'est pas de s'éloigner de la réalité, mais elle est de vivre pleinement au cœur de ce monde. Être réuni pour un culte, ce n'est pas s'abstraire de ce qui se vit autour de nous. En quelque sorte, ce que nous dit Luc par cette énumération, c'est que l'Évangile nous concerne, il est de notre temps, il est aussi du temps du lecteur, donc il est pour nous, qui le recevons dans ce monde troublé, dans ce pays déchiré, dans cette difficulté parfois de nos vies. C'est la première chose que je trouve très importante dans ce texte. L'Évangile, c'est une parole qui nous concerne, dans notre temps, ici et maintenant. Et puis il y a un deuxième point qui me touche. Luc a cité les grandes puissances de son temps, que ce soit au niveau de l'Empire, au niveau de la région, au niveau de l'administration politique, au niveau des grandes structures religieuses. Et puis il poursuit en disant que la parole de Dieu advient à Jean. Qui est Jean ? En fait, on ne sait pas grand-chose de Jean. On sait simplement qu'il est le fils de Zacharie, qui était prêtre. Alors, Zacharie n'était pas le grand prêtre, Zacharie était un prêtre, il y a des prêtres, il y en avait des milliers en Israël. Donc c'est un homme banal. On sait simplement que Zacharie et Élisabeth pensaient ne plus avoir d'enfants et que cette naissance est inespérée et que Jean va être porteur d'une mission que Dieu lui donne d'annoncer l'ouverture du royaume. Mais on ne sait pas plus, on ne sait pas si Jean était grand ou petit, s'il était beau ou moche, s'il parlait bien ou s'il ne parlait pas bien. C'est pas grave, parce que c'est pas ça qui est important. C'est même peut-être ça qui est important de ne pas le savoir. C'est que Jean est un homme banal, en fait. On ne sait pas grand-chose de lui parce qu'il n'est pas parmi tous ces puissants que Luc vient d'énumérer. Il y a comme un contraste entre eux et Jean. C'est un homme banal. Ça veut dire que si la parole de Dieu advient à un homme banal, eh bien, elle peut advenir à nous, qui sommes banals, ni mieux ni moins bien que les autres, avec nos propres vies, nos propres existences, nos propres défauts, nos petites qualités, notre bonne volonté, et puis tout ce qui nous retient. Voilà, c'est nous qui sommes comme Jean, ceux à qui la parole de Dieu advient. Et le texte nous précise qu'à ce moment-là, Jean se trouve dans le désert. Alors je trouve ça très intéressant comme précision, parce que le désert, c'est à la fois, on pourrait dire, le lieu qui est le plus loin possible du palais de l'empereur à Rome, ou du préfet à Césarée, ou des grands prêtres à Jérusalem. Le désert, c'est loin de tout ça. C'est presque l'anonymat. Le désert, c'est aussi un endroit difficile à vivre. Dans le désert, c'est là que l'on souffre, c'est là qu'on a soif, c'est là qu'il fait chaud, c'est là qu'on a peu de choses pour nous aider. C'est un lieu compliqué, et notre vie est souvent avec une part de désert. Mais le désert, c'est aussi l'endroit où on peut volontairement se retirer pour un temps de méditation, un temps de ressourcement, un temps où on se met à l'écart du monde, du bruit, de la fureur pour mieux entendre. Peut-être certains parmi vous ont fait l'expérience d'un temps dans le désert. Alors ça peut être le désert physique, ça peut être aussi un lieu simplement où on fait une retraite, où on se met à l'écart. Le désert, c'est ça aussi, le lieu de la disponibilité à l'écoute. Et puis le désert, dans la Bible, c'est aussi le lieu du passage, comme autrefois avec Moïse, du moment où on est libéré jusqu'au moment où on va vivre cette libération. C'est-à-dire un passage rude et long, fait parfois de révolte, de doute, de perte de confiance, d'idolâtrie, mais accompagné par Dieu, en marche vers la terre promise. Jean est dans le désert, et moi j'entends tout ça à la fois. La rudesse de nos vies, l'appel à se mettre à l'écart pour entendre, la parole qui accompagne sur le chemin difficile du royaume. Jean est dans le désert, c'est donc dans nos déserts que la parole de Dieu advient. Mais quand Jean entend la parole de Dieu pour lui, elle est pour lui, mais elle n'est pas que pour lui. Il ne la garde pas pour lui, il ne reste pas dans le désert. Luc précise immédiatement, il se met à parcourir toute la région du Jourdain et il partage la bonne nouvelle qu'il vient de recevoir avec ceux qui l'entourent. Il ne garde pas pour lui ce qu'il vient de recevoir. Le désert, c'est un temps, c'est pas tout le temps. C'est le temps pour entendre, mais c'est aussi le temps ou le lieu dont on part pour partager. Et ça nous dit aussi quelque chose de très très important. Quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous sommes dans un temps de désert de nos propres existences, ou dans un temps de retrait, comme un temps de culte, comme ce soir, c'est comme un petit bout de désert finalement. C'est assez modeste, assez humble, c'est un peu hors du temps et de l'espace, ça nous ressource. C'est pas pour que nous restions là, c'est pas pour que nous oublions le monde, mais c'est pour que nous partions parcourir le monde, ou le voisinage, ou les autres espaces de notre vie, pour partager l'Évangile comme Jean. Ça, c'est la deuxième chose que je trouve très importante dans ce texte. Premier plan, Luc le situe dans le temps. L'Évangile est pour ici et maintenant. Deuxième plan, c'est à partir de Jean que l'Évangile va commencer à se répandre. C'est à partir de nos vies, c'est par nous, quand nous l'entendons, que l'Évangile peut se répandre ici et maintenant. Et il y a une troisième chose qui me touche dans ce texte, c'est la question fondamentale, c'est quoi cet évangile à partager ? C'est quoi qu'on reçoit et qu'on peut aller vivre et transmettre à d'autres ? Eh bien voilà ce que Jean entend, c'est la parole de Dieu, et ce qu'il se met à partager, c'est un baptême de conversion pour le pardon des péchés. C'est un baptême, c'est-à-dire un signe. Concrètement éprouvé par tous ceux qui sont prêts à le vivre, qui indique un passage, une transformation, un moment autre que celui que l'on était en train de vivre, une conversion, un changement radical, une transformation intérieure. Il y a un avant et il y a un après. Il y a quelque chose qui est renouvelé. Et c'est pour le pardon des péchés, nous dit Luc. Alors le mot péché, on a souvent de la peine avec ce mot-là, parce que nous sommes entre l'évangile de Luc et maintenant, avec 2000 ans de christianisme. Et ce mot péché a été chargé de tas de sens différents, et parfois dans le monde, il est aussi transformé, et souvent on y entend quelque chose de moral, ce qu'il ne faudrait pas faire, des bêtises, ou des fautes, ou des crimes, voilà, des exemples de comportement. Alors que le péché, bibliquement, fondamentalement, ce n'est pas ça. Le péché, fondamentalement, dans la Bible, c'est la coupure de relation. C'est ce qui fait qu'on n'est plus en relation avec Dieu, et par conséquent, avec les autres, ou avec nous-mêmes. Ce n'est pas une catégorie morale, c'est une catégorie relationnelle. Alors elle peut se traduire, effectivement, symptomatiquement, par des actes qu'on regrette, qu'on ne devrait pas faire, par le mal que l'on peut vouloir, ne pas vouloir et faire, etc. La vie est compliquée, mais fondamentalement, ce n'est pas une liste, c'est un appel à la relation. Et par conséquent, le pardon, ce n'est pas quelque chose qui est simplement de dire ce que tu as fait, ce n'est pas grave. C'est de dire la relation rompue, elle peut se remettre en place. Ce que Jean annonce, c'est le pardon des péchés. C'est que la relation à Dieu va se remettre. C'est que le lien va se rétablir. Et le baptême de conversion, c'est ce que chacun peut vivre dans sa propre vie, de cette relation renouvelée. Et pour bien insister là-dessus, Jean cite le prophète Ésaïe. Ésaïe qui écrit 6 siècles avant lui, dans un temps dramatique pour le peuple hébreu, le temps de l'exil, temps de crise absolue, quand tout est perdu, et où le prophète vient redonner de l'espérance en disant « Vous pourrez retrouver la foi, le lieu où vous priez, l'espérance. Tous les obstacles seront aplanis. » Parce que le Seigneur vient, parce que le salut de Dieu s'approche. Jean cite ce prophète Ésaïe pour dire, voilà cette espérance que je propose, c'est la venue de Dieu. C'est la venue de Dieu qui rétablit la relation et qui appelle chacun au changement radical. C'est la foi, ce renouvellement de notre être par la parole de Dieu qui nous projette dans le pardon, dans l'espérance, et que nous sommes appelés à vivre ici et maintenant. C'est ça l'évangile à partager. Alors maintenant, je voudrais reprendre ces 3 points pour terminer cette prédication en les mettant ensemble. Premier point, l'évangile est pour ici et maintenant. Deuxième point, c'est un homme banal, Jean, c'est nous, dans la banalité de nos vies, qui sommes appelés à en être porteurs. Et cet évangile, il est de partager le salut, l'espérance, la relation redonnée. Alors maintenant, si je reprends tout ça et que je le mets dans le contexte de ce que nous vivons, eh bien je trouve que l'évangile est vraiment une parole émouvante et éblouissante et motivante et engageante. Notre monde est plongé dans la crise. Je ne parle pas simplement des derniers samedis à Paris ou dans les grandes villes de province, je ne parle pas simplement des dernières semaines que nous vivons, je parle plus largement de tout ce que nous traversons dans nos vies, dans notre société, à l'échelle du monde. Tant et tant de défis, il me semble qu'il y a 3 dimensions qui sont dramatiques et qui nous plongent dans la crise ainsi. La première dimension, c'est que nous sommes dans une crise de confiance. Nous n'avons plus confiance dans la parole en particulier. J'ai prêché là-dessus il y a 15 jours, donc ceux qui étaient là, vous avez tout à fait le droit de ne pas vous en souvenir, mais voilà, toute la prédication était sur cette thématique, voilà, la parole, quand nous n'avons plus confiance dans la parole et dans son contenu et dans la personne qui la partage, alors c'est la défiance. Et la défiance, ça entraîne nécessairement la pulsion, la violence, c'est dramatique. Petite publicité, donc vous pourrez trouver cette prédication dans 15 jours, il y a 15 jours sur le site de la paroisse. Ça me paraît une crise fondamentale dans notre société, cette perte de confiance dans la parole à force de fausses nouvelles, de manipulations, de mots qui ne veulent plus rien dire. Enfin bon, voilà, je ne vais pas plus loin là-dessus, mais c'est une vraie crise que nous vivons là-dessus. Deuxième crise, c'est la crise de la justice. il y a tellement d'injustices dans notre monde, et tellement d'inégalités, à la fois objectives et à la fois ressenties. Et quand il y a un sentiment d'injustice, alors forcément, il y a de la rancœur, il y a de la colère, il y a du désespoir, il y a des tas de choses qui interpellent. Et puis, nous sommes dans un monde qui est en crise d'espérance. Quand nous n'avons plus confiance dans l'avenir, quand nous ne savons pas ce que sera l'avenir, ou alors quand nous craignons que l'avenir soit pire que ce qui est vécu, alors ça entraîne nécessairement de l'angoisse, de la dépression. L'absence d'espérance, c'est un lieu de crise énorme. Et c'est dans ce contexte que l'Évangile résonne très fort. Crise de la parole. Tout l'Évangile, tout le message biblique, c'est de nous dire que la parole de Dieu nous est donnée et que cette parole, elle est fiable, elle est solide. On peut s'y appuyer. Elle peut nous ouvrir dans la confiance à poser nous-mêmes des paroles qui peuvent être des paroles de confiance. Pas des mots vides, mais des mots vrais, des mots qui disent la relation. La parole de Dieu est là pour nous donner confiance dans ce monde qui perd confiance. Dans un monde où il y a tant et tant d'inégalités et d'injustices, eh bien, tout le message biblique, en commençant par les prophètes, Ésaïe par exemple, est là pour nous dire qu'il n'y a jamais de paix sans justice. Et tout le message biblique est là pour dire que le partage, c'est plus important que la prière, par exemple. Que la justice sociale, c'est plus important que les rites religieux. Il y a plein de textes dans la Bible qui disent ça, qui sont des appels à la solidarité, à la diaconie, à la relation les uns avec les autres. Et puis dans un monde qui n'a pas d'espérance, et bien tout le message biblique, c'est un message d'espérance, le royaume de Dieu que Jean vient ouvrir, que Jésus va incarner et qui nous entraîne à sa suite et que nous vivons génération après génération. Nous avons tout dans la foi chrétienne pour pouvoir vivre dans ce monde comme des porteurs de confiance, de justice et d'espérance dans un monde qui en manque tellement. Alors si l'Évangile nous appelle chacun de nous, s'il nous appelle ici et maintenant, s'il nous confie cette parole de salut qui vient de Dieu, alors c'est pas juste pour que nous disions c'est super et que nous passions à autre chose, c'est pour nous entraîner dans cette dimension d'espérance concrètement, ici et maintenant. Dans les versets qui suivent, qui ne font pas partie de la lecture de ce jour, Jean-Baptiste va s'adresser directement aux personnes qui viennent. Et à chacun, il va dire « Toi, ce que tu peux faire, c'est être plus juste, c'est avoir une parole fiable, c'est partager. Toi. » L'Évangile s'adresse à chacun de nous, au cœur de ce monde, au cœur de cette ville, au cœur de ce pays. Nous sommes engagés, chargés de partager, non pas des mots, mais une présence qui démontre qu'on peut vivre dans la confiance. Deuxième dimanche de l'Avent, temps de l'espérance, temps du Messie qui vient, eh bien, ici et maintenant, c'est à nous que cette parole vient s'adresser. C'est vers nous que Jésus vient à la rencontre. C'est par nous qu'il peut être partagé avec le monde. Que l'Esprit Saint nous aide à vivre ainsi comme Jean, porteur de la parole de Dieu.